VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Deux suspects dont l'attentat djihadiste à Grand Bassam en Côte d'Ivoire ont été arrêtés à Dakar, au Sénégal.
Des ONG et pays donateurs réunis à Oslo veulent 1,5 milliard de dollars pour une aide d'urgence aux victimes de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad.
Vive tension entre le Nigeria et l'Afrique du Sud après une vague d'incidents xénophobes dans plusieurs villes de ce dernier pays.
Les forces irakiennes ont pénétré dans l'aéroport de Mossoul pour la première fois depuis la prise de la ville par le groupe État islamique en 2014.
Pas d'expulsion massive de clandestins ni de recours à l'armée en matière migratoire ont assuré hier au Mexique des émissaires du président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Deux Maliens liés à l'attentat djihadiste contre la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam en mars 2016 ont été arrêtés jeudi à Dakar. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP le porte-parole de la police sénégalaise. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'attentat qui a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, a fait 19 morts et une vingtaine de blessés. Plus de 10 suspects ont été arrêtés, dont plusieurs au Mali, mais l'homme présenté comme le principal cerveau de l'attentat, un certain Kunta Dalla de nationalité malienne, demeureur recherché jeudi. Selon le porte-parole de la police sénégalaise Henri Boumissis, les deux suspects arrêtés jeudi à Dakar sont de nationalité malienne et ont été identifiés comme Ould Sidi Mohamed Sina et Ould Am Sidalamine. Le premier a été arrêté dans une auberge et le second, probablement son chauffeur, dans une gare routière alors qu'il était à bord d'un véhicule immatriculé en Gambie, a détaillé M. Sis. Les deux hommes sont détenus à la division des investigations criminelles, la DIC, de la police judiciaire, pour des enquêtes et des investigations, a-t-il ajouté. D'après les premiers éléments de l'enquête, a-t-il dit, l'un des suspects, Ould Sidi Mohamed Sina, était le contact du planificateur présumé de l'attentat. Au Sénégal, il avait un contact, Mustapha Diatta, arrêté depuis longtemps et placé sous mandat de dépôt pour activités terroristes et associations de malfaiteurs.
Des combattants ont tendu une embuscade à une patrouille de l'armée au Niger, tuant 14 soldats et en blessant 19, a déclaré jeudi le ministère de la Défense. L'incident a eu lieu mercredi dans une zone proche de la frontière avec le Mali, où des militants islamistes cherchent à étendre leur rayon d'action. Une opération de recherche a été déclenchée pour neutraliser les terroristes, précise le ministère dans un communiqué au sujet de l'attaque qui a eu lieu tout près de la ville de Tiloa.
Dans le nord du Mali, les premières patrouilles mixtes, formées de soldats maliens, de combattants de groupes pro-gouvernementaux et de l'ex-rébellion, ont été lancées hier à Gao. C'est un nouveau pas dans l'application de l'accord de paix entre Bamako et les groupes armés. Le point avec John Lyndon.
La cérémonie a eu lieu au siège du mécanisme opérationnel de coordination en périphérie de Gao. D'anciens frères ennemis, c'est-à-dire des soldats de l'armée régulière, des combattants de la plateforme et d'ex-rebelles Touareg de la coordination des mouvements de l'Azawad vont mener des patrouilles mixtes. Elles vont d'abord commencer à Gao avant de s'étendre dans tout le nord malien. À terme, 600 hommes, 200 de chaque camp, devraient y participer. Les autorités maliennes, la MINUSMA et l'opération française Barkhane, dédiée à la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel, étaient représentées à la cérémonie. Ces patrouilles mixtes sont une disposition de l'accord de paix signé en mai-juin 2015 par Bamako, la plateforme et la CMA. Leur lancement intervient quelques 5 semaines après un attentat suicide contre le même camp près de Gao. Cette attaque, revendiquée par le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, avait fait près de 80 morts.
Des ONG et pays donateurs réunis à Oslo tentent de lever des fonds pour une aide humanitaire d'urgence à des millions de déplacés menacés de famine dans le bassin du lac Tchad où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Jacques Aristide.
L'objectif des Nations Unies dans la capitale norvégienne est de récolter jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'engagement pour la région du lac Tchad, bordée par le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, co-organisateur de la conférence avec son homologue norvégien, est à Oslo, tout comme les chefs de la diplomatie nigérian, Jeffrey Oniyema, et le tchadien, Hissène Brahim Taha. La région est ravagée par 8 ans de violence. Les écoles, les dispensaires, l'agriculture sont en ruine. 5,1 millions de personnes manquant de nourriture et plus de 500 000 enfants souffrant de malnutrition sévère. Pour le ministre norvégien des Affaires étrangères, Borg Brende, qui ouvrait hier une réunion de la société civile, il s'agit de l'un des conflits oubliés de la planète. Selon lui, plus de 10 millions de personnes ont besoin d'assistance et d'ajouter que certaines parties du nord-est du Nigeria pourraient malheureusement déjà connaître la famine.
Tension entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Après les récentes violences contre des immigrés dans plusieurs villes sud-africaines, le Nigeria a convoqué jeudi l'ambassadeur d'Afrique du Sud pour exprimer sa profonde préoccupation et réclamer des mesures de protection pour les étrangers. Claire Morin-Gibourg.
Kadi Boukar Abba Ibrahim, ministre délégué aux Affaires étrangères du Nigeria, a rencontré à huis clos l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Dans un communiqué, le ministre s'est dit profondément préoccupé par les incidents xénophobes qui ont eu lieu à Johannesburg et à Pretoria. Des attaques qui visaient non seulement des Nigérians, mais aussi d'autres nationalités, a-t-il précisé. Abuja appelle le gouvernement de Pretoria à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les vies et les biens des étrangers vivant et travaillant en Afrique du Sud, mais également à traduire en justice les auteurs de ces actes de violence déplorables. Depuis 2 semaines, des dizaines de bâtiments occupés par des étrangers ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et à Pretoria. L'Afrique du Sud accueille plusieurs millions d'étrangers qui sont souvent accusés de voler le travail de la population locale et de nourrir la criminalité.
13 migrants sont morts asphyxiés dans le conteneur d'un camion qui les transportait vers une plage de l'ouest de la Libye afin de traverser la Méditerranée vers l'Europe. C'est ce qu'a indiqué hier le Croissant Rouge libyen.
Le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, s'ouvre demain. De nombreux films sont au programme, avec des milliers de projections, souvent en plein air, avec en toile de fond des inquiétudes sur la sécurité, Tatiana Mosso.
Quelques 164 films en compétition, dont 20 longs métrages pour la récompense suprême, l'étalon d'or de Yenenga. Une cinquantaine de films seront aussi présentés hors compétition. Presque tous les professionnels du 7e art africain seront sur place. Pendant 10 jours, jusqu'au 4 mars, ce sera la fête du cinéma avec plus de 100 000 spectateurs. Le réalisateur marocain Noureddine Sahil présidera le jury. En marge du FESPACO se tiendra aussi la 18e MICA, la bourse de programmes audiovisuels. En dehors de la salle principale qui compte 1200 places, les projections auront lieu dans 6 autres salles, des cinémas ambulants, galeries marchandes, écoles et même dans certains villages non loin de Ouaga. Toutes les dispositions ont été prises pour la sécurité des festivaliers, même si le risque zéro n'existe pas, explique le commissaire Paul Sondo, responsable de la sécurité. Pour rappel, la capitale burkinabé a été frappée le 15 janvier 2016 par une attaque de 3 djihadistes qui avaient tué 33 personnes dans des hôtels et restaurants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les responsables mexicains ont exprimé hier à Mexico leur inquiétude au secrétaire d'État américain Rex Tillerson et à son collègue de l'intérieur John Kelly qui sont voulus rassurants auprès de leurs hôtes. Luis Vidgaray Caso et Miguel Angel Osorio Chong, leurs homologues mexicains, ont souligné qu'ils ne sont pas d'accord avec les récentes mesures du gouvernement américain. Messieurs Tillerson et Kelly ont assuré à ce sujet qu'il n'y aura pas d'expulsion massive de clandestins et que l'armée ne sera pas utilisée contre eux.
Les forces irakiennes ont pénétré dans l'aéroport désaffecté de Mossoul pour la première fois depuis la prise par les djihadistes du groupe État islamique de la 2e ville d'Irak en 2014. Appuyées par des avions, des drones et des hélicoptères, elles ont déclenché l'assaut jeudi contre l'aéroport situé à la périphérie sud-ouest de la ville sans rencontrer de forte résistance des djihadistes. Cette avancée intervient au 5e jour de la seconde phase de leur offensive lancée dimanche pour reprendre la partie occidentale de Mossoul après avoir chassé le groupe État islamique de l'est de son dernier grand fief en Irak.
Les pourparlers de Genève entre belligérants syriens, présentés par l'ONU comme une opportunité historique de mettre fin à 6 ans d'un conflit dévastateur, s'annoncent très difficiles et nombre de questions restent en suspens vendredi sur l'ordre du jour ou les modalités des discussions. En ouvrant officiellement les discussions hier soir, au Palais des Nations à Genève, l'émissaire de l'ONU, Stéphane de Mistura, a solennellement appelé les camps ennemis à la responsabilité historique.
Aux Philippines, la principale opposante à la sanglante guerre contre la drogue du président Rodrigo Duterte a été arrêtée vendredi après une veillée nocturne au Sénat. Selon l'AFP, la sénatrice Leila de Lima, qui est elle-même accusée de trafic de drogue, a protesté de son innocence. Bien qu'elle risque la prison à vie, elle a promis de continuer à s'exprimer contre ce qu'elle a appelé l'oppression du régime Duterte. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Le FMI accorde un nouveau prêt de plus de 150 millions de dollars au Bénin. Le prêt sur 3 ans vise à soutenir le plan de relance économique initié par le président Patrice Talon. Aux usés, l'Espagnol Saler mise sur l'Afrique subsaharienne. Spécialisée dans la fabrication de stations d'épuration, l'entreprise familiale jusque-là présente au Maghreb multiplie depuis 2 ans les projets au sud du Sahara. On trouve de plus en plus de stations compactes d'épuration, en particulier en Côte d'Ivoire, mais aussi au Cameroun, au Sénégal et au Nigeria, et plus rarement au Ghana, au Congo, au Kenya et en Afrique du Sud, indique Jeune Afrique. Côte d'Ivoire, la première édition des Journées nationales des exportateurs de cajou s'ouvre ce vendredi à Abidjan. Ces journées se dérouleront autour du thème principal, émergence de la filière de cajou en Côte d'Ivoire et défis liés à la commercialisation extérieure.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Des surprises en Europa League hier soir.
Accroché par la Gantoise à Wembley, 2-2, Tottenham quitte la Ligue Europa en 16e de finale après sa défaite à l'aller 1-0 en Belgique. Après avoir mené 2-0, la Fiorentina s'est inclinée contre une renversante équipe de Mönchengladbach. Une défaite 4-2, la Fiorentina qui s'arrête là. Dans les autres matchs de la soirée, les Russes de Rostov sont allés chercher un bon match nul en République tchèque face au Sparta Prague, 1-0. Ils ont confirmé leur victoire à l'aller 4-0. Le Racing Genk a aussi obtenu son billet pour les 8e aux dépens de l'Astra Giurgiu, 1-0. Enfin, le FC Copenhague n'a pas eu besoin de gagner pour éliminer le Ludogorets. Le score 0-0.
Claudio Ranieri n'est plus l'entraîneur de Leicester.
Après avoir mené Leicester à un incroyable titre de champion d'Angleterre la saison passée, l'entraîneur italien Claudio Ranieri a été démis de ses fonctions et ce au lendemain d'une défaite 2-1 à Séville en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ranieri paye surtout la saison très compliquée du club en Première Ligue puisque Leicester est 17e du championnat avec seulement un petit point d'avance sur le premier relégable.
Un challenger pour Ayatou à la tête de la CAF.
Il s'appelle Ahmad Ahmad, il est à la tête de la Fédération Malgache de Football et se présente comme le candidat du changement et de la transparence pour la présidence de la Confédération Africaine de Football. Il affirme être le seul à oser défier le Camerounais Issa Ayatou. On rappelle qu'Ayatou Idrissa est en poste depuis 1988. Il briguera un 8e mandat le 16 mars prochain.
Le Togolais Serge Gakpé annonce sa retraite internationale.
Avec l'équipe du Togo, ce joueur né en France a pris part aux Coupes d'Afrique des Nations 2013 et 2017. Gakpé était également du groupe victime de la fusillade avant la CAN 2010 en Cabinda. Enfin, Idrissa, on vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Portland 112, Orlando 103, Charlotte 108, Détroit 114, Houston 129, Nouvelle-Orléans 99 et New York Knicks 104, Cleveland 119.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le rassemblement persiste et signe. Étienne Tshisekedi a laissé aux évêques une lettre dans laquelle il a donné le nom du Premier ministre. La plateforme de l'opposition rejette la demande du président Joseph Kabila, qui a récemment déclaré à la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, qu'il continuait à attendre une liste de 3 candidats pour faire son choix. Eddy Sango a joint à Kinshasa un des sages du rassemblement, Martin Fayoulou.
Je vous confirme que le président Tshisekedi a signé une lettre désignant Félix Tshisekedi comme premier ministre sorti de l'accord de la Saint-Sylvestre, la position du rassemblement, et nous sommes tous derrière cette position.
Les évêques ont rencontré le président Joseph Kabila le week-end, et celui-ci a demandé que vous puissiez présenter une liste de 3 personnes. Si cette lettre-là existait, les évêques auraient certainement pu parler de la lettre au président de la République.
Les évêques ont présenté la lettre à M. Kabila. Ça, c'est vrai. M. Kabila a rétorqué en disant qu'il voulait 3 candidats. Ce n'est pas le problème, mais lui, c'est la réponse qu'il a donnée aux évêques. Mais nous, nous entraînons à l'accord. L'accord dit clairement que le premier ministre est présenté par le rassemblement. L'accord ne dit pas qu'on doit présenter des candidats. Il faut qu'à un moment donné, au Congo, on respecte les textes. M. Kabila n'a pas l'habitude de respecter les textes. Il croit qu'on peut changer à tout bout de champ. Pour nous, le respect des textes exige que le rassemblement présente le premier ministre, et cela a été fait. Nous devons respecter la mémoire du président Tshisekedi.
Le président de la République exige 3 noms et vous vous en tenez à un seul nom. Qu'est-ce qui va être fait?
Tout le monde doit s'en tenir à la position de l'accord. Je vous dis que le point 3.1 de l'accord dit que le gouvernement est dirigé par un premier ministre présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre par rassemblement.
Qu'en est-il alors du remplacement de M. Étienne Tshisekedi à la tête du rassemblement? Nous apprenons que vous êtes aussi l'un des candidats.
Il n'y a pas d'élection à organiser. Le président Tshisekedi est irremplaçable. On ne remplace pas un homme comme Tshisekedi, mais nous allons sortir un nom, quelqu'un qui va présider le conseil des sages du rassemblement. Comptez sur nous. Ce ne sera pas par élection, ce sera par consensus.
À considérer les déclarations des uns et des autres, beaucoup craignent que les rassemblements implosent.
Nous savons que des gens utilisent même l'argent pour déstabiliser le rassemblement. Honte à eux. Le rassemblement, c'est quoi? Le rassemblement, c'est le peuple congolais. Et ceux qui seront avec le peuple, c'est ça le rassemblement.
Joint à Kinshasa, le député de l'opposition, Martin Fayoulou, du Rassemblement.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
600 Congolais vivant aux États-Unis sont concernés par la mesure d'expulsion annoncée par l'administration Trump. La plupart sont des sans-papiers et certains des criminels. Eddy Sango a joint l'ambassadeur de la RDC à Washington, François Balumvene.
Quand je suis arrivé, il y avait presque 1000 Congolais qui se retrouvaient dans des prisons ici. Après un temps, on parlera maintenant de 600 parce qu'il y en a eu qui ont été libérés, il y en a eu qui ont été expulsés déjà à l'époque, d'autres libérés. Donc c'est par vague, c'est suite au jugement rendu par les juges dans les différents cas que la procédure soit des libérations, soit ils sont devenus américains d'arrêt définitif ou alors carrément d'expulsion. Donc ce n'est que la continuation. Peut-être qu'il y a eu un accent un peu plus particulier là-dessus, mais la donne reste presque invariable.
L'administration Trump parle des 11 millions de sans-papiers qui pourraient être rapatriés. Combien de Congolais sont concernés maintenant là?
Une idée, peut-être que dans le 600, on peut avoir des gens comme ça, quelques criminels. Et puis il y a des voleurs aussi, bien sûr. Surtout, beaucoup plus de gens qui sont entrés illégalement sur le territoire américain, sans visa normal.
Et de manière globale, combien de Congolais y a-t-il aux États-Unis?
Nous, on arrive à avoir les données qui par rapport à ceux qui veulent renouveler leur passeport. Donc, je ne saurais pas donner un chiffre là-dessus, mais il y a quand même beaucoup de Congolais aux États-Unis. On peut dépasser facilement les 10 000, 20 000 par là.
L'ambassadeur de la RDC à Washington, François Balumwene. De leur côté, 137 immigrés sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis font l'objet d'une mesure d'expulsion. Les intéressés ont épuisé toutes les voies de recours et les services compétents américains et sénégalais discutent de la mise en œuvre de ces mesures. 11 personnes ont déjà accepté leur rapatriement par vols commerciaux. Idriss Fall a joint El Hadj Ndaou, le consul du Sénégal à New York.
Effectivement, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait un communiqué faisant état d'expulsion de Sénégalais des États-Unis au nombre de 137. Ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est vrai qu'avant, les pays d'Afrique n'étaient pas tellement, disons, intéressés à un chiffre aussi élevé, parce qu'avant, c'était plutôt les pays d'Amérique latine. Mais on voyait toujours les services de l'immigration procéder à des expulsions. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'on leur reproche, c'est d'être ici de manière irrégulière. Soit c'est des entrées irrégulières, et ça c'est pour la grande majorité des cas. Il y a d'autres cas aussi, mais vraiment très minimes, de cas d'infraction et de crime. Et là aussi, des gens qui ont bénéficié de procédures légales. Donc, en tout cas, que nous sachions, on a demandé à ces intéressés, pour la plupart en tout cas, s'ils ont été présentés devant un juge, s'ils trouvent anormal les procédés qui leur a été réservé, mais il n'y a pas de grief à ce niveau. Donc, vous comprendrez que s'il n'y a pas de grief à ce niveau, le consulat général, ou en tout cas le Sénégal, ne peut pas avoir raison de se plaindre d'une procédure.
Est-ce qu'on a idée de combien de Sénégalais vivent illégalement aux États-Unis?
Non, on ne peut pas avoir accès à ça. Ce qu'on peut savoir, c'est combien de Sénégalais à peu près sont aux États-Unis. Bon, on ne peut pas avoir accès à leur statut d'immigration, malheureusement.
Et combien de Sénégalais sont aux États-Unis à peu près?
C'est à peu près entre 80 000 et 100 000 Sénégalais. La grande majorité est à New York, dans le Tri-State Area. Mais aussi, il y a une importante communauté sénégalaise dans le Midwest, dans la zone du Ohio Valley, dans la zone sud vers Atlanta et aussi dans la zone ouest, dans l'État de Texas et aussi en allant vers la Californie.
Est-ce que vous avez reçu des pressions de l'administration Trump pour les expulsions de ces Sénégalais?
Pas de pression particulière. Le contexte, nous le vivons tous. Les politiques commencent à changer. Alors là, c'est pas, disons, des pressions ciblées au Sénégal ou en quelques pays que ce soit, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a une politique qui change, surtout pour ce qui est de l'immigration, et il faudra prendre note et essayer de s'ajuster par rapport à tout ça.
Voilà, c'était le consul du Sénégal à New York, El Hadj Ndaou.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Fin hier à Niamey au Niger du forum Sahel Innove. C'était une rencontre de jeunes porteurs de projets innovants pour un développement durable. Pendant 3 jours, le public a eu droit à des expositions de start-up et de plusieurs pays dans divers domaines. Nous dit notre correspondant au Niger, Abdourazak Idrissa.
Au stand 23, Daniel Bitumba présente son invention, un dispositif de prévention des risques liés à l'utilisation du gaz domestique.
Technogaz, c'est la technologie de l'utilisation de la bouteille de gaz. Donc nous avons mis un dispositif d'alarme qui te permet, dès que tu ouvres le robinet, l'alarme se déclenche pour te signaler que d'abord la bouteille est ouverte. Mais quand tu finis de fermer la bouteille, le robinet est là ouvert. Donc l'alarme va reprendre son travail puisque tu as oublié, tu as rappelé de venir fermer ça. Et dès que tu fermes ça, terminé. D'où la sécurité.
Les visiteurs du stand sont fascinés. Celui-ci, par exemple, utilise déjà Technogaz chez lui.
C'est impeccable. Vraiment, je suis à l'abri des incendies. Au moins à l'abri de l'incendie, de certains trucs d'inattention du gaz.
Un peu plus loin, l'on aperçoit deux échantillons de petits avions. C'est le stand de la start-up Drone Africa Service du jeune Aziz Kounké, spécialisé dans le travail aérien.
Les drones que nous utilisons en interne sont des systèmes que nous avons conçus pour pouvoir effectuer des missions précises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la prochaine génération de drones que nous allons faire, baptisée T600, que nous allons réellement breveter. Nous sommes en plein prototypage. Le T600 sera un drone qui va révolutionner le monde de l'ingénierie aéronautique, surtout pour l'Afrique de l'Ouest, dans le sens où ce drone-là sera multitâche et pourra effectuer plusieurs missions. Il sera livré en 4 versions. Donc on aura une version S, qui sera spécifiquement pour la sécurité, une version C, cargo, pour pouvoir amener des médicaments sur de longues distances, de l'ordre de 100 km. Une autre version que nous avons appelée la version AG, dédiée spécifiquement pour l'agriculture de précision. Et enfin, la version M, M en anglais pour mapping, pour la cartographie et le relevé topographique.
Jusqu'ici, les prestations de Drone Africa Service sont sollicitées par le système des Nations Unies et certains organismes internationaux. Tous ces jeunes porteurs de projets ont comme souci premier le manque de financement. Mariam Abdoulaye est promotrice d'une entreprise de transformation agroalimentaire.
On devrait faire analyser tous ces produits pour avoir la certification et afin de travailler dans les normes. Et pour le reste, on a besoin aussi d'investissement parce que le travail est artisanal. C'est pas tout à fait sécurisant. Donc si on arrive à avoir les investissements pour travailler de façon moderne, ce serait encore mieux. Donc en tout cas, nous, on se bat pour ça.
Faire voir ces projets innovants au monde et aux financeurs, c'est donc entre autres objectif de Sahel Innov, le centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, initiateur contre le perpétuer. Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Burkina Faso veut parer à une éventuelle épidémie de méningite dans le pays. Les autorités sanitaires mettent en place le dispositif de riposte suite à la cote d'alerte atteinte notamment par la ville de Bakié dans le sud-ouest du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Instruits par les épidémies passées et davantage par leur nature cyclique, les autorités sanitaires du Burkina ont mis en branle le plan de riposte au vu du niveau d'alerte atteint par le département de Batié, un département situé dans le sud-ouest burkinabé. Le directeur de la lutte contre la maladie, Dr Brice Wilfried Bikaba.
Le seuil d'alerte, il faut dire que c'est lorsque le district atteint 3 cas pour 100 000 habitants. C'est le seuil à partir duquel nous sommes vraiment en vigilance. Et le seuil épidémique, il est de 10 cas pour 100 000 habitants. Nous avons observé que le district sanitaire de Batié avait atteint le seuil d'alerte, ainsi que le district de Titao. Donc, sur recommandation du Comité national de gestion des épidémies, nous avons décidé exceptionnellement cette année de faire une campagne de vaccination dans les deux districts.
Un réveil nécessaire des dispositifs, même s'il n'y a pas lieu de s'alarmer, indique celui qui était encore lundi, le ministre de la Santé du Burkina Faso, Dr Smaïla Ouedraogo.
Il y a de fortes chances que nous n'ayons pas d'épidémie. Les éléments qui nous font dire qu'il y a de fortes chances sont lesquels? Nous essayons de comparer nos statistiques, donc c'est-à-dire le nombre de cas, par exemple, de méningite qu'on a eu à enregistrer l'année passée au cours des 5 premières semaines à celles qu'on a enregistrées aujourd'hui au cours des 5 premières semaines de l'année 2017. En termes de statistiques, l'année passée, durant les 5 premières semaines, nous avions 433 cas de méningite. Cette année, nous avons 298 cas. L'année passée, on avait 49 cas de décès de méningite. Cette année, malheureusement encore, on a des décès qui se chiffrent à 16 cas, moins important que l'année passée.
Cette activation du système de riposte a valeur plutôt de prévention pour ces dernières semaines, selon le docteur Bis Wilfried Bikaba, directeur de la lutte contre la maladie. Il dresse le dispositif.
C'est un plan qui comporte pré-épidémique, les phases donc père-épidémique et post-épidémique, ce qui suppose qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises en termes donc d'acquisition de médicaments et de mettre à disposition des centres de santé, étant donné que la prise en charge de la méningite donc est gratuite. Et ensuite, nous avons les acquisitions des réactifs, la mise à disposition des agents de santé directives, du rappel donc des précautions à prendre et des protocoles à observer. Nous avons également depuis un certain temps commencé un certain nombre d'activités de sensibilisation, se protéger de la poussière, humidifier donc les muqueuses nasales avec donc du beurre végétal et également aller dans une formation sanitaire lorsqu'on a une fièvre.
Situé dans la ceinture méningitique de la sous-région, le Burkina Faso est balayé à cette période de l'année par l'Harmattan, un vent chaud et sec qui charrie des quantités de poussière sanitaires contenant les germes de la méningite. La combativité des autorités sanitaires permet cependant de juguler ces méfaits grâce notamment au travail de prévention mené dans tous les districts à risque. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Ranald Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.